リードスコープ。Salut, salut, c'est Tigre sur CFM Radio à Montauban 101.2. Vous retrouvez l'émission Kaleidoscope qui vous parle de tout, de n'importe quoi, mais surtout de culture. Voilà, on est là en présence sur les ondes de CFM le mardi à 19h et bien évidemment le dimanche à 21h, mais c'est une fois sur deux. Ça, c'est mystérieux.
Mais ouais, voilà. Mais vous verrez plus tard.
Mais vous verrez plus tard. Aujourd'hui, donc, au sommaire de cette émission, on a Lysiane qui va venir nous parler de l'exposition qui se tient au musée Ingres. Picou et les néo-grecs, truc mystique et fantasy. On profite pour saluer Lysiane.
Salut Tigre.
Hello.
Elle est en reportage à Paris, Lysiane, cette semaine. Mais elle veut rien en dire. Et donc aller à Paris à l'expo Van Gogh.
Dans le sommaire, voilà, de l'émission, moi je vais vous parler un peu de l'exposition qui se passe en ce moment à la Poste.
Pour tous les timbrés.
Ouais. Et dont personne n'est au courant. Donc ça sera l'occasion d'en parler un peu plus. Et bien sûr, plein de sujets annexes, de bêtises et de choses plus sérieuses. On n'oublie pas Aurélien qui nous fait la technique et qu'on salue également, qui est...
Miaou.
Voilà, salut Aurélien. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif de ces sujets, on va voir un peu ce que nos chroniqueurs ont vu d'intéressant en Montauban, en Tarn-et-Garonne et plus si affinité. On va commencer par Paul Elie.
Et ouais, parce que moi si j'avais été à Montauban, je serais allé voir Bach Elite qui faisait du son électro dans la salle du musée, dans la salle des tortures du musée Ingres. Et c'était en avant-première, je pense, de la nuit des musées. Et j'y étais pas, mais j'espère que vous y êtes allé.
Voilà, et comme Paul Elie l'a révélé tout à l'heure, je n'étais pas sur Montauban la semaine passée, donc c'était ma semaine parisienne, donc
ouais,
j'ai vu...
Ouais, t'as trompé Ingres.
C'est ça. Mais je suis allée voir le musée Bourdelle.
C'est vrai, près de Montparnasse.
Il existe,
et puis c'est l'atelier aussi, surtout.
C'est l'atelier, donc très chouette. Alors, j'ai vu l'atelier de Zadkine et l'atelier de Bourdelle. Zadkine, on peut voir une de ses sculptures dans l'église de Caylus aussi, qui est très belle.
Oui, Caylus, c'est pas loin de Montauban.
Voilà, deux espaces super, mais je voulais, j'ai gardé surtout en mémoire les tableaux de Van Gogh, donc de l'exposition Van Gogh, Van Gogh Artaud. Suicidé de la société, et j'en garde des couleurs et super éclairage où enfin on savait plus si la lumière sortait
beau,
des
non mais ça
des tableaux.
Ça fonctionne bien la rencontre entre ces deux univers parce que sur le papier on pourrait croire.
Eh ben oui, puisque Artaud donc a écrit Le suicidé de la société, donc c'était un écrit sur...
Donc c'était deux écorchés vifs.
Oui, voilà,
aussi,
oui, effectivement, donc on voit quelques dessins d'Artaud, mais là où ça fonctionne bien, c'est que ils ont essayé de recréer en fait l'exposition qu'Artaud avait vue. Donc on fait l'expérience des couleurs.
Mais est-ce que t'étais sous absinthe
des... non, non, pas du tout. Mais il y a des couleurs. Mais par contre, l'absinthe est dans les tableaux et il y a des verts fluo, des choses incroyables et la lumière qui sort des tableaux qui était super.
De la lumière qui sort des tableaux.
Ouais.
Ils l'ont fait rêver,
incroyable.
Là.
Et pour le même prix, en plus.
Incroyable, ouais. Alors, je pense que l'installation y était pour beaucoup. Il y avait un super fond et un super éclairage. Et à côté de ça, je suis allée voir Bill Viola, donc vidéaste des années 70.
Voilà.
Il t'a reconnu.
Assez mystique aussi.
C'est magnifique. Donc, Lysiane, qui est notre grande reporter de l'émission Kaleidoscope sur CFM, à Paris, à New York, à San Francisco, à Tokyo, vous la retrouvez.
Et à Nègrepelisse.
J'aimerais bien Tokyo.
Et surtout à Nègrepelisse. Moi, pour ma part, j'ai pas vu grand chose. Par contre, j'ai beaucoup entendu parler de l'Eurovision.
Ah, ben oui, nous aussi. Mais c'est pour ça que t'as des moustaches aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, voilà, les Français, avec le fabuleux titre Moustache, se sont classés avant-dernier ou dernier.
Ah, non, mais moi, je faisais une blague, là.
Non, c'est vrai.
Tu savais pas.
Non, je savais
c'est
pas.
Le titre, ouais, c'est
je pensais à la femme barbue, moi, enfin l'homme.
Ben, c'est ça.
C'est un sample.
Le premier, le dernier, tu vois, il y a une cohérence dans tout ça.
C'est raccord avec les poèmes. Oui.
Des jeunes artistes français électro qui ont un peu samplé Stromae, Papa Outé et un peu Jordi, oui je suis petit. Voilà, c'était un truc un peu
zarbi. C'était parti au départ.
C'était sympa. Moi le clip est très sympa. On vous invite à aller voir le titre présenté par la France à l'Eurovision et à faire comme de Gérard Depardieu et prendre la nationalité russe. Si vous suivez l'Eurovision, il vaut mieux être russe que français, parce que là, c'est un peu la honte. Mais ce qui est quand même assez assez explosif et assez funky fresh, c'est que l'heureux gagnante, je sais pas, de l'Eurovision est Conchita Wurst.
Oui. Voilà, c'est ça, c'est lui que j'avais vu le buzz.
Donc ça a fait un gros buzz sur toutes les radios, sur toutes les télés d'Europe, tellement bien que les gens ont voté pour cet homme femme à barbe.
Tu veux dire que c'était joué d'avance, enfin il était connu avant de passer à l'Eurovision.
Oui
en fait,
oui c'est oui, c'est-à-dire que si tu veux le buzz,
sa candidature avait marqué un peu les esprits parce que ça se passait
ça se passait bien ouais. Non, ça,
jusqu'à là, je veux dire c'était en Union soviétique,
En
Russie, je veux dire, c'était Djibouti.
On n'en sait rien, de toute manière, c'est foutu.
Je sais pas, je suis pas vraiment.
Il me semblait, moi, que ça avait fait un buzz parce que, comme Poutine c'est était un peu homophobe et que lui Russie, avait dit ça, et il se disait que. Finalement, il a gagné, donc c'est chouette.
Ouais, ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Après, c'est vrai que pour avoir écouté, par curiosité, la chanson, c'est pas mal.
T'as regardé ça chez ta mère?
Non, non, j'ai pas regardé. Non, pas du tout, j'ai pas le droit. Ça, c'est par contre, c'est,
voilà. Je suis rassuré.
J'ai pas eu le droit de regarder l'Eurovision, mais ça a fait un tellement gros buzz un peu partout que.
Oui, il y a une voix.
Que surtout ce matin, quand je me suis réveillé, la première chose, mon téléphone a sonné, a dit, Alex, parce que je m'appelle Alex, en fait, je m'appelle pas vraiment Tigre.
Ah oui,
mais. Il me dit, ouais, c'est Conchita Wurst qui a gagné l'Eurovision, réveille-toi vite.
Sors de
ce corps. Donc on va, continuer dans la joie et la bonne humeur et je vous ai ramené
une petite blague
pour ne pas dire du mal ou du bien de Conchita. Chacun pourra se faire sa propre opinion en allant sur internet ou en regardant la télévision ce soir.
Vous épiler
Moi je vous ai ramené une petite blague qui n'a rien à voir, mais c'est pour détendre l'atmosphère avant de passer au sujet suivant. Donc pendant la répétition de mariage, le marié s'approche du pasteur pour lui faire une proposition peu commune.
Bonjour, c'est super. Regardez, je vous donne 100 € si vous changez les vœux du mariage. Lorsque vous allez vous retourner vers moi et me dire j'ai des contrastes, eh ben, la partie où je dois promettre de l'aimer, l'honorer, lui obéir, etc., de lui être fidèle pour toujours, j'apprécierais énormément si vous pouviez oublier ce passage.
Donc, notre ami donne 100 € au prêtre.
Voilà, 100 €, je vous ai donné 100 €, il y a des témoins.
Et il repart satisfait.
Oh, je suis très satisfait.
C'est à présent le jour du mariage. Il est temps pour les jeunes mariés d'échanger les vœux. Le pasteur se retourne vers l'homme, le regarde dans les yeux et lui dit « Promettez-vous, le chéri, à votre femme, d'obéir à tous ses désirs et souhaits, lui servir le petit déjeuner au lit chaque matin de votre vie commune et de jurer devant Dieu de ne jamais regarder une autre femme qu'elle ?»
Pour des siècles et des siècles.
L'homme stupéfait répondit d'une voix timide.
Oui.
Après la cérémonie, le jeune marié alla voir le pasteur et lui dit.
Je pensais que nous avions un marché très honorable, monsieur le pasteur.
Le pasteur remit donc les 100 € dans la main du marié et lui dit.
Elle m'a fait une meilleure offre.
Dommage.
Voilà, bon, c'est nul. C'était. Merci. Donc la blague la plus nulle de CFM pour 2014, on nous avait demandé de la faire, on l'a faite.
Ça y est, c'est fait.
Et on va donc passer au petit sujet suivant qui est le.
Continuer dans l'humour là.
Oui, très rapidement, un site internet parodique qui a ouvert et qui s'appelle La Dèche du Midi. Est-ce que ça vous rappelle un célèbre quotidien?
Fanzine, ouais, bonne pioche.
Non. Pas du tout. Donc je vous dis en quelques mots ce que c'est.
Et garde le même visuel.
Oui, c'est le même visuel. Même typo et même code, c'est ce qui est très amusant.
Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous qui nous écoutez sur CFM, vous tapez ladèchedumidi.com sur internet, sur Google, et vous tombez directement sur le site. Ils sont aussi sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Et donc ladèchedumidi.com est un site sans intérêt qui raconte des histoires délirantes écrites sans talent aucun sur Toulouse et sa région.
Mais ça, c'est leur propre pub.
Ça, c'est leur propre pub.
C'est
tout
cool,
à fait.
La barre est haute et du coup, ils sont vraiment décontractés pour pouvoir.
Ils sont vraiment très décontractés, comme tu le disais. Tous les articles qui sont publiés ici sont totalement faux. Les lieux et les personnes citées ne le sont que dans un but purement humoristique. Le seul objectif qui est suivi
par ça parodie l'actualité quand même ou même ça... pas?
Oui, en la tournant en dérision, oui, puisqu'il crée des faux articles, mais oui, plus ou moins
avec
l'actualité.
Des...
Voilà.
Et puis avec
j'aime
des photos.
Beaucoup leur propagande, toute ressemblance avec un vrai journal ne serait que fortuite et très désagréable pour tout le monde. Les pseudo-journalistes du site ladèche.com n'ont, contrairement à leurs éminents confrères, aucun lien avec la réalité, la véracité ou la démocratie.
Ah bah mais oui. les photos sont réelles.
Oui, oui, tout à fait.
Les photos sont réelles, mais les articles sont de pure intox. Et c'est très amusant. En fait, c'est de la contre-information. En fait, sur un sujet d'information, ils vont, par exemple, sur l'alcool des jeunes à Saint-Pierre, à Toulouse, sur la place Saint-Pierre, là, ils vont faire un contre-sujet, c'est-à-dire un article sur un étudiant qui a été retrouvé non ivre.
Ah oui, d'accord. Voilà. C'est du Groland-DM, donc, quelque part.
Oui,
Tu maîtrises moins.
Je maîtrise
elle
moins.
Elle est trop intelligente pour nous, cette dame.
Après, ce qui est assez rigolo, c'est que la blague peut se cacher jusque dans les noms des rédacteurs d'articles. Donc, il faut bien lire l'article jusqu'au bout. Et dans les rubriques également.
Oui, c'est vrai que c'est
dans le nom des rubriques. Ouais.
Les rubriques jusqu'au bout, quoi.
Et leur slogan, voilà, et c'est un journal satirique et gratuit de désinformation qui revendique le droit de raconter n'importe quoi, n'importe quand et à n'importe qui. Un slogan à la con, mais qui fait un clin d'œil, bien sûr, à notre
patrimoine local.
Si tu veux, j'ai lu un article sur De Casseville, comme quoi, avant la fin 2014, ils vont enfin avoir l'internet 56KO pour changer, enfin, parce qu'ils étaient
jusqu'à l'été. Pour remplacer le Minitel,
c'est ça. Et donc, voilà, en tournant en dérision, ils parlent quand même de certaines vérités.
Ben voilà, oui. Airbus va tester un A380 sans pilote, etc.
Une étudiante toulousaine découvert non ivre un jeudi soir.
Mais oui, c'est ça, ce dont je parlais. Donc tu connais.
Si vous voulez vous détendre, si vous voulez vous détendre, on vous invite à aller faire un tour sur ladèche.com. C'est rigolo et ça mange pas de pain. En attendant, un peu de musique.
Un peu de musique en pensant à Cassandra, qui nous a fait passer un disque de Fabrice Dang Trio. Paroles d'anciens, on vous en dit plus après avec le morceau Fin du monde, parce que nous, on est aussi, on est taquins.
Voilà, bon solo de Malik Richeux au violon, Antonin Volson contrebasse et Fabrice Dang guitare, et tout le monde est une lune avec une face cachée que personne ne voit. Voilà, une proposition de Cassandra, et on va vous faire découvrir un autre morceau plus tard. Merci.
Et donc, merci Paul Elie et Cassandra pour ce délicieux morceau. Vous êtes toujours sur Kaleidoscope dans CFM Radio 101.2 à Montauban. Vous nous écoutez le mardi et le dimanche à des horaires improbables. Et Lisiane va donc nous raconter un peu ce qui se passe du côté du musée Ingres en
oui,
ce moment même.
Picou et les néo-grecs, donc rien à voir
avec
Picou, sinon les couleurs pastels.
Picou les dragées.
Des tableaux.
Il y en a des dragées au musée quand il va.
Ils
n'ont pas pensé
au
jeu de mots. Ils sont pas dyslexiques là-bas.
Des dragées en tableau, oui. On peut s'étonner de ce nom, on ne sait pas qui c'est.
Nous on ne sait rien. Avec Paul Elie, on a vu, parce que tu nous en as parlé,
oui.
On
voit partout les affiches quand même. Hein.
On voit partout les affiches.
Oui, vraiment, on voit les affiches.
Et en plus, tu nous avais invité dimanche dernier, c'était gratuit apparemment.
Bah, tous les premiers dimanches du mois, les entrées de musées sont gratuites.
Ah, alors ça, je le note. Ça, c'est intéressant.
Mais si tu as moins de 26 ans, c'est toute l'année que c'est.
Non.
Si.
Oui, mais comme on n'a plus moins de 26 ans.
Non, mais plein de gens ne le savent pas.
On planche sur le premier dimanche du mois.
Honnêtement.
Ça, c'est l'occasion de faire une sortie au musée, effectivement. Et donc Picou est en fait, alors il s'appelle Henri-Pierre Picou.
Envoyez vos dons pour soigner Lisiane.
Peintre et dessinateur nantais, parce que l'exposition, c'est une double exposition, donc qui a eu lieu aux Beaux-Arts de Nantes. Et donc le musée des Beaux-Arts de Nantes.
Ils se prêtent l'expo entre eux, mais c'est pas simultanément.
Ils ont constitué l'exposition
ensemble.
Et je pense que le musée des Beaux-Arts de Nantes conserve beaucoup des dessins de ce Picou.
C'est un artiste contemporain, pardon,
Oui, bien sûr, contemporain du 19e siècle.
En 1940.
Voilà, en fait, le mouvement néo-grec est un mouvement qui a duré une vingtaine d'années, de 1847 à 1870, donc ça a été assez rapide.
Oui, c'est une fulgurance.
Oui, tout à fait. C'est une espèce de relent de néoclassicisme, là, juste avant l'impressionnisme, en fait. Ça se caractérise par la douceur des poses. Enfin, vous avez vu les affiches, les
Hamilton
couleurs.
S'est inspiré beaucoup de ça, non?
Je sais pas, mais c'est possible.
Non, c'est une connerie.
Des couleurs claires, pastels, des lignes simples. Donc un retour à l'antique, bien entendu, et un style très précis, voire précieux, comme
oui,
ça.
Oui, précieux.
Presque, oui, presque précieux. Et Picou, l'intérêt. Donc, je pense qu'à Nantes, l'intérêt c'est de présenter ce graveur nantais, figure de la ville. Mais à Montauban, je pense que c'était l'occasion de mettre à l'honneur le cabinet graphique. Qui est destiné au dessin d'Ingres, habituellement. Et là, le cabinet était rempli, mobilisé, pour les dessins de Picou. Effectivement, ça donne pas très, très envie d'y aller, l'affiche.
L'affiche, représente la peinture d'une déesse grecque, on peut imaginer.
C'est-à-dire que si c'était tombé dans la marmite, tu irais parce que de toute façon, c'est ta tasse de thé. Mais pour faire venir des personnes qui seraient éloignées, c'est vrai que le visuel
donne pas spécialement envie, mais même moi, comme tu dis, qui suis dans la marmite, Picou et les néo-grecs avec cette image là rose bonbon et bleu pâle, ça ne me donnait pas du tout envie. J'y suis allée par curiosité.
C'est sûr que si on confond les gens qui disent tiens les dragées ils ont du mal à faire passer la pilule.
Oui, surtout qu'en plus, je pense que le fameux dragetier, il utilise des visuels de Ingres aussi sur ses boîtes pour faire connaître la ville.
Effectivement, Ingres, dans ses représentations de personnages néo-grecs, est complètement dans la mouvance, en fait. Le tableau de Sappho jouant de la lyre.
C'est Sappho.
Ouais, c'est Sappho qui fait penser
Sappho
à Sappho.
Sappho, le savoir, monsieur.
Sappho, et ne pas confondre avec l'artiste des années 80, Sappho, copine de Désirless.
Les mêmes valeurs.
Fais semblant de pas connaître, c'est normal.
C'est ça, et donc il fait écho à la Sappho de Bourdelle, qui est sur le parvis là du théâtre. Donc ça fait très art pompier tout ça. Ça vous dit quelque chose, l'art pompier, c'est l'art académique, donc.
Michel-Angelo.
Ah oui, ça te fait pas ça, Michel-Ange, toi, l'art pompier.
Non, mais des tortues ninja,
Ah oui, au pizza, il pense à lui.
Je ne vous suis plus. Donc l'art pompier, qui était donc art académique, pas très, enfin qui paraît pas très intéressant comme ça, et on appelait ça pompier parce que les casques étaient très brillants. Enfin voilà, les images comme
pompeux,
ça. Quoi. Un peu, voilà, pompeux, mais ça pourrait aussi venir de pompéien, donc d'où le lien avec les néo-grecs.
Oui, c'est vrai que c'est, enfin c'est emmerdant. À la fois, c'est ce qui donne,
c'est la base. C'est la base, c'est les classiques.
C'est la base, c'est le classique. Alors là, on pourrait faire une remarque, c'est que donc il y a Jérôme qui a créé le mouvement néo-grec. Donc il y a quelques tableaux. Moi,
c'est
pas
Jérôme.
Jérôme, ouais. Tu vois, c'est Jérôme.
C'est Jérôme.
Et c'est pas vraiment pas ma tasse de thé. Cependant, ces tableaux sont très n'ont rien de pompier en fait, de brillant ou d'exagéré. Et ils sont très mat. En fait, c'est des images très mat et très plates. Et qui ont un caractère un peu velouté comme ça, donc c'est finalement c'est pas mal.
Techniquement, c'est sûrement très abouti, quoi. Il y a aucun souci.
Oui, oui, mais ça pourrait être très lisse, et très pompeux, comme tu dis. Mais finalement, c'est assez séduisant comme texture, en fait.
C'est
on pourrait dire ça. Et séduisant. D'accord. Pas luisant.
Après, ce qui est rigolo que tu peux dire, c'est que si on y va en famille ou marin, laisser l'installation. Moi, je trouve ça marrant.
Attends, j'y arrive. Oui, okay. Donc voilà.
C'est l'affiche.
Comment le mouvement néo-grec peut paraître plus fun que l'on croit, en fait. Donc, j'ai quatre raisons de vous faire aller à cette expo qui dure jusqu'au 18 mai.
Attention, mesdames et messieurs,
mai,
qui nous écoutez
ce qu'il te plaît.
Sur CFM, voici les quatre raisons de Lysiane pour aller visiter le musée Ingres et l'exposition.
Voilà.
Normalement, c'est le top 5, mais bon, elle vous en donne une gratuitement.
Alors, le mouvement néo-grec, en fait, traite des sujets d'histoire. Et des thèmes antiques, souvent avec humour et légèreté, comme dans le tableau là de Jérôme, donc qui est en fait le combat de coq, où c'est deux ados qui jouent. Enfin voilà.
Il faut avouer qu'au 19e siècle, l'humour n'est pas le même.
C'est ça tout l'intérêt.
Il y a le côté familier en fait finalement, pas du tout grandiloquent ni rien. Il y a aussi un érotisme latent. Donc tu parlais de sensualité que tu as perçue dans l'affiche tout à l'heure. Donc une espèce
mais
de sensualité chasse.
Nous avons tous un érotisme latin, même le ver de terre.
Mais là les tableaux sont assez ambivalents, donc sous un aspect froid et droit. Et finalement il y a des choses qui se jouent.
C'est
de
toujours
cet ordre.
Ça, des déesses grecques un peu drapées d'un léger voile qui laisse apparaître
c'est ça,
des
c'est
formes.
C'est totalement chaud en fait.
Totalement chaud.
Voilà, on pourrait dire ça.
Allez-y.
Et ensuite il y a la fameuse installation dont parlait Paul Elie, mais en fait c'est un studio photo qui est mis à la disposition des visiteurs.
Tu repars avec un cliché.
Mais c'est toi qui te les fais, les clichés.
Oh, c'est vrai, on est moderne.
Bah avec ton portable, voilà. Donc des accessoires sont mis à disposition. Alors on regrette juste qu'il n'y en ait pas un peu plus sur un fond de carton-pâte.
Je dis ça mais parce qu'il y a des endroits pour passer sa tête dans un décor.
Non.
C'est ce que j'ai vu.
C'est ce que t'as vu? Non, mais oui, parce que je vous ai envoyé une petite photo petite après-midi. Non, c'est un décor avec des fausses colonnes, un rideau, une petite estrade, donc qui pourrait reprendre la scénographie des tableaux. On met pas la tête, on se déguise. Donc il y a des
c'est sympa ça. On met pas la tête parce que moi j'ai pas réussi à l'agrandir, c'est pour ça que je te disais.
Non, on met pas la tête à travers un décor, on se déguise et on prend les poses. Alors sous le couvert ludique, où on s'amuse bien.
Et tu t'es dévêtu un peu ou?
Normalement, il aurait fallu que nous soyons nus, effectivement, puisque généralement les figures grecques sont nues dans les tableaux. Là, sous l'aspect ludique, en fait, on se prend au jeu de recréer les poses qu'on a vues dans les tableaux et on se rend compte qu'en fait, on les a pas bien vues.
Oui, mais ça, je trouve ça plutôt simple. L'installation est chouette, quoi.
Oui,
ça. C'est interactif.
Après, c'est vraiment du toc, donc c'est ça qui est rigolo.
Mais rassurez-moi, Lysiane et Paul-Élie, vous êtes nus sous vos vêtements, là.
Comme toi, tigre.
Je ne sais pas, moi.
Non, c'est pour susciter chez l'auditeur.
Et une dernière raison d'y aller, donc c'est la plastique. Pour le coup, il y a au moins un tableau qui vaut le détour, qui est donc un petit tableau, un tondeau, donc un tableau rond.
Ah, ok, ça se dit comme ça.
Ouais, ça s'appelle un tondeau de Jérôme, donc qui date de 1853, et qui s'appelle Tête de femme coiffée de cornes de bélier.
Oh, tout un
donc
programme.
C'est un personnage complètement. Oui, c'est un portrait, mais fantastique. On ne sait pas si elle est déguisée ou si c'est un personnage mythologique, mais en tout cas, le tableau est très très beau, très doux, enfin, parfait, quoi.
Parfait.
Il est superbe. Et une autre chose, des aquarelles d'un architecte. Qui s'appelle Achille Joyot. Et donc là, il y a trois aquarelles d'architecture d'Athènes qui sont exposées. Et donc c'est des vues topographiques. Hein, wow. Parce que c'est des études d'architecte en fait.
Là, tu nous fais rêver.
Et, ouais, moi, rien pour ça.
Et en fait, ces trois aquarelles n'ont pas pris une ride. Elles sont dignes de la BD contemporaine au niveau des vues, des couleurs. Ouais, ouais, ouais. Ah, et cool. Ça vaut vraiment le coup, notamment celles qui représentent les propylées d'Athènes.
Ah, les fameuses propylées d'Athènes.
Les fameuses propylées d'Athènes, qui représente vraiment non mais ça fait vraiment dessin contemporain, c'est vraiment très surprenant.
Il faut y aller par curiosité, se prendre au jeu de
c'était vraiment surprenant.
Il y avait les quatre,
donc au bilan voilà, le bilan c'est que finalement on peut ne pas aimer, hein. Moi je ressors de là, je suis toujours pas fan de la peinture néo-grecque, hein, ça
mais
c'est
t'as
sûr.
Trouvé des choses qui t'ont
mais
plu.
L'exposition est tellement cohérente en fait que ça donne du sens à toutes ces images
comme souvent les expositions
un peu barbantes. Eh ben oui, qui sont souvent de qualité, effectivement, qui redonnent du sens au tableau d'Ingres qui peuvent paraître ennuyeux.
C'est le cœur de leur métier, hein.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Oui, non, mais
nous sommes contents d'avoir le musée Ingres à Montauban.
Ah. Oui. Et je me permets quand même peut-être, si je peux, il y avait, en fait, ce jour-là, il y avait une petite visite guidée qui était proposée à 10h30.
Ah oui, là.
Donc c'était le 4 mai, voilà.
On n'avait pas pu venir le matin, pardon.
Une visite de l'exposition temporaire qui se tient dans les sous-sols, qui s'intitule « Regards éblouis ». Peut-être avez-vous vu les affiches, non ?
Absolument.
Et c'est...
Absolument, c'est
éblouissant.
C'est éblouissant. Et la visite était faite par Paul Duchin et il était accompagné à la guitare de Jimi
Hendrix.
Oui, voilà. Et la visite s'est faite en présence de Baba.
La tonalité, c'était quoi, flamenco?
Baba. Non, petite musique acoustique, voilà, guitare acoustique. En fait, c'était une exposition d'art brut, puisque c'est le credo de Paul Duchin, hein, et donc il mettait en avant voilà tout un tas d'artistes qui ne se considèrent pas comme tels. Mmh. Donc il y avait de la peinture, du dessin. Alors si je suis moins fan de la peinture, parce que ça fait rapidement des croûtes, enfin des choses pas très très intéressantes. Ah, je dis
c'est ce que j'en... Mais non, mais tu dis le fond du fond de ta pensée.
Le dessin, par contre, se prête vachement bien à ses visions.
Monsieur Duchin avait posé des installations lui aussi, non?
Je suis pas sûr qu'il y avait des œuvres de lui. Oui, mais en tout cas, il nous a présenté en fait. Bon, il nous a fait un petit tour, mais c'était une approche un petit peu anecdotique. Donc nous, on s'est vite échappé. Et il y avait un dessin, enfin des dessins vraiment très très intéressants pour le coup, notamment des dessins de Joël Laurent, Lorand, qui sont contemporains, hein, de 2007. Et c'était des personnages floricoles, donc à la fois le titre est assez poétique et le dessin est totalement romantique, baroque, punk, voilà, et très très chouette.
Pour nous aiguiller,
d'une belle
floricole,
qualité.
C'est un truc entre le rhum agricole et non mais.
Je te laisse imaginer, floricole, fleurs.
Et alcool.
Fleurs et alcool, oui, de l'alcool, de l'hydromel.
Et alors, on peut que regretter l'absence de tableau de Séraphine. Mmh. Vous connaissez Séraphine?
Oui. Ça Séraphine, quelque chose notre copine qui a été adaptée en cinéma.
Au cinéma, par Martin Provost, donc qui fait ses grands tableaux de bouquets, de fleurs totalement psychédéliques et délirants. Et on devait avoir un tableau de Séraphine, et puis finalement, ça s'est pas fait. Donc, Paul Duchin, dans son récit d'anecdote, nous a expliqué pourquoi, bon, des histoires de d'argent et de conservateurs pas très sympas.
Mmh. Et de droits mal placés.
Donc un petit regret par rapport à ça, mais de dessins de bonne qualité, vraiment.
Cool.
Et un très bon titre, pour le coup.
Est-ce que tu as encore beaucoup de choses à nous dire sur le musée?
Non, je crois que c'est pas mal.
Tu as fait le tour. Est-ce que tu invites les auditeurs et auditrices à faire un tour quand même?
Oui, top 5, elle a donné.
Mais top,
non, non, mais toi, personnellement, je sais que de toute manière, Lysiane est toujours conquise par les expositions Musingres, mais est-ce que nous, elle a réussi à nous séduire? Est-ce qu'on va aller les voir?
Je pense que l'occasion serait de profiter de la nuit des musées. Aller au musée nuit, c'est toujours plus inquiétant que d'y aller le jour.
Tout à fait.
On découvre le musée sous un autre angle en général.
C'est beaucoup plus
amusant. Et je pense qu'il y a tout un
programme.
Parce
que tu as dit inquiétant.
Inquiétant et amusant, oui, inquiétant.
C'est mystérieux.
Peut-être que même.
C'est ce qui fait bander la vie, le mystère.
Peut-être que certains. Et
attends, bordel, je parle aussi, je suis au comptoir, mon gars, je parle pas, c'est
Peut-être que certains endroits du musée qui ne sont pas ouverts habituellement seront ouverts à cette occasion. Je sais que j'ai déjà fait une après-midi comme ça, de traverser des couloirs qui sont fermés habituellement au public. Donc, le jeudi 17.
Jeudi 17 mai, on invite tous les gens donc à se réfugier au musée Ingres pour voir
la nuit
bien entendu.
Musées, ouais.
Pour la nuit des musées, voir la fameuse exposition de Picou et la lyre d'ivoire de d'autres choses, plein de choses
qui est donc
au,
le titre
au musée Ingres. Et en attendant, un peu de musique.
Un peu de musique. Oui, on va continuer l'exploration de l'album de Fabrice Dang Trio avec le titre Im Sunwan. Laisse voyager sur les airs de Fabrice Dang Trio. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur le site Fabrice Dang. Je voudrais vous Dang Musique. Alors c'est dangmusique.com.
Voilà, et vous êtes toujours connecté sur Kaleidoscope, l'émission CFMN. C'est nos nouveaux mots à la mode, émission voilà. CFMN.
C'est pas que pour les gays et les lesbiens, c'est pour tout le monde.
C'est pour vraiment tout le monde. On continue donc après l'exposition au musée Ingres, des dragées, voilà. Au musée Ingres, on continue avec une exposition que l'on a pu découvrir et qui est toujours d'actualité et qui se déroule.
Que t'as démasqué à la poste.
Je démasquais à la poste centrale de Montauban, donc sur les allées de l'Empereur. Au hasard, c'est-à-dire que vous, si vous allez chercher des timbres, remettre un colis, chercher une lettre, vous n'allez pas la voir du tout parce qu'elle est cachée derrière dans les bureaux de des conseillers financiers. Ouais. Là où il y a
il y a deux entrées en fait, il y a les grandes marches et les petites marches. Ça,
voilà.
Celle qui est collée près de la préfecture.
À la préfecture, voilà. Et au niveau du distributeur automatique de billets en intérieur. Et là, je tombe bizarrement sur cette exposition qui nous retrace l'histoire de la Poste en France de ses débuts au XIIIe siècle, d'un siècle.
Un certain
jusqu'à nos jours. Alors, cette exposition qui se tiendra jusqu'au 14 juin, d'après mes informations, nous fait découvrir la Poste, voilà, à travers des grands panneaux d'affichage, comme ça se fait beaucoup, voilà, pour présenter des choses historiques. Donc, il y a 10 grands panneaux qui chacun représente une période de la Poste. Alors, vous avez en vrac la relation de la Poste et de l'art, par exemple, qui va vous expliquer pourquoi les timbres, l'oblitération aussi constitue. Enfin, il y a plein de choses qu'on soupçonne pas dans la Poste et qui est expliqué sur ces grands panneaux. et tous les faits historiques, comment se sont montés les relais de poste, les bureaux de poste, qui avait le droit d'acheminer là. Enfin, on apprend plein de choses complètement.
Et ça, elle fait le tour de France, cette exposition.
Aucune idée. Les gens, il y a aucune affiche, il y a rien qui explique le pourquoi du comment. Donc moi, je me suis renseigné comme ça, quelqu'un qui passe de la poste, qui passait par là, qui a juste su me dire qu'elle se terminait le 14 juin. Il y a ces grands panneaux forcément, et il y a aussi après une dizaine de sous-verts, de choses exposées qui ont rien à voir les unes aux autres, mais qui ont tous une relation,
une thématique, quoi.
Voilà, avec la poste. Ouais. Il y a une superbe maquette d'un avion postal jaune. Il y a des sabots qui lestaient.
Ah oui, ils reviennent de loin de la poste. Enfin, maintenant, ils sont tranquilles, ils font plus d'efforts.
Il y a un truc aussi qui servait à enlever la peste et le choléra et le typhus des lettres.
Du timbre.
Voilà, certaines lettres étaient mises en quarantaine, c'est-à-dire que quand elles arrivaient par bateau, elle restait 40 jours à un endroit et après il les perçait, les griffes.
Pour dire que c'est bon, là, elle pouvait sortir.
Non, pour justement les aérer, enlever les bactéries. Il y a plein de choses insoupçonnées sur la poste. Il y a
Et tout ça à l'heure de la disparition du timbre, parce que maintenant, quand tu demandes un timbre, ça devient compliqué, à part le timbre basique, des timbres de collection. Enfin, si tu veux envoyer un petit tableau justement
pour les
timbres à ta maman ou.
Si, pour les philatélistes,
c'est un peu difficile. Hein.
Ah non, dans tous les bureaux de poste, il y a quand même des collections. Moi, j'ai encore des timbres que j'envoie, alors forcément. Quand j'écris aux impôts, je leur mets pas de mystiques, de gens qui ont.
Ouais,
de...
non, mais je vois. Mais moi, j'ai été surprise à Nice. On m'a fait la réflexion. Ah non, mais de toute manière, on va plus en produire des timbres.
Et il y a justement, en parlant de ça, les machines qui servaient à graver les timbres. C'est-à-dire qu'on pense là qu'on prend son imprimante laser et qu'on imprime
ses papier spécial.
Voilà, ses propres timbres. Maintenant, c'est un peu facile. Mais à l'époque, voilà, c'était gravé.
C'était des œuvres d'art. Ouais.
Le timbre.
Des œuvres d'art. Et je vois la poste. Le titre du flyer là, c'est la poste 25. Un siècle d'histoire en BD.
Tout à fait. Alors si tu veux, je voulais en venir à la fin, c'est-à-dire qu'il y a les planches de la BD, bon pas les planches originales bien sûr, mais les planches de cette BD qui est disponible dans tous les bureaux de poste que vous pouvez acheter, les 25 ans d'histoire.
Les
25 siècles d'histoire.
Après,
voilà, l'histoire de la poste. Et il y a cette BD, les planches de la BD qui sont en lecture aussi.
Mais 25 siècles, ça paraît énorme, parce qu'en fait je suis en train lire les transports des messages du grec.
Oui.
Philippides au.
Oui, c'est très raccord. Il a bûché.
Avec les néo-grecs, tout ça. Et jusqu'au facteur équipé de smartphones, voilà.
C'est ça. Et c'est donc.
Parce qu'en fait, le mec qui a fait la course du marathon, en fait, il travaillait pour Colissimo à l'époque. Et il a battu le record. Non, mais ce qui est rigolo, c'est l'histoire des timbres. Je te rejoins. Oui. C'est quelque chose qui va disparaître. Mais il y a des gars furieux qui s'amusent à créer des faux timbres. Et ils les envoient, mais ils font des trucs magnifiques.
Comme des petites images,
en fait. Voilà, ils font des petites images, des dentelles.
Je suis de ceux qui collectionnent les petites images. Même si elles sont des...
C'est vrai?
Oui, c'est parce que j'ai récupéré une collection, et du coup, je la continue.
Ah, c'est vrai. J'ai des doubles.
Et donc, pour dire.
Pour faire échange.
Pour dire que voilà, c'est un truc, personne n'est au courant en Montauban de cette exposition à la poste.
De toute manière, c'est tellement, insupportable d'aller à la poste, là.
Mais dans la partie derrière,
oui,
c'est sympa.
Oui, du coup, on y va très peu, et
On fuit.
Non, mais voilà, j'ai écouté CFM en boucle pendant une semaine, ils en ont
et
pas parlé,
pourtant
ils parlent de tout. Et personne n'en a parlé, c'est relayé dans aucun des sites d'information montalbanais où on a la chance de pouvoir voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je voulais me faire le relais formel de cette exposition à la poste, sur la poste.
Entre exposition historique et artistique alors?
Oui, tout à fait. Enfin, artistique, il y a 2-3 planches qui parlent vraiment de l'art, avec après des reliures de timbres. Enfin, voilà le truc. Mais c'est très généraliste. À la fois, ça va pas non plus combler 25 siècles d'histoire de la poste en BD.
Est-ce que Tigre, c'est pour faire un espèce de lancement de leur bande dessinée? Est-ce qu'elle va sortir? Elle est sortie.
Elle est sortie. En vente.
Et là, on peut y aller l'acheter si on veut quand on va à cette expo.
Oui. Alors, je sais pas si elle est à la boutique du musée de la Poste à Paris.
Ah ben voilà.
Elle est en vente. Non,
si vous allez voir Gauguin.
Vous pouvez la commander.
Vous allez voir les tatoueurs tatoués.
Van Gogh.
Vous pouvez
Gauguin. Oh, j'adore les deux, de toute façon.
La commander dans certains bureaux de poste et bien sûr par correspondance. Mais si vous allez, si vous voulez plus de renseignements et que l'histoire de la Poste vous intéresse, vous, auditeurs de CFM, je vous invite à aller sur l'adresse du musée de la Poste sur Internet, donc www.ladresse, LADRE2SE, musée M-U-S-E-E, de la poste, quoi.
En plus, ça vaut le coup, c'est 25 siècles en un volume.
Voilà, mais
là, il faut mieux que les pages jaunes.
Vous tapez ça sur Google et vous trouverez forcément, l'adresse, musée de la poste, et vous en saurez beaucoup plus sur la BD et les expositions qui tournent un peu dans toutes les postes.
En tout cas, ça t'a réjoui, toi.
Ah oui, moi, je suis tombé dessus.
Ouais, t'as découvert des choses.
Mais plein de choses. Et c'est surtout les sous-verts, là, les objets qui me, qui ont, enfin voilà. Je vous invite vraiment à aller faire un tour, c'est jusqu'au 14 juin, donc n'hésitez pas à aller poster un timbre, retirer un peu d'argent ou quoi que ce soit. Mais enfin, voilà, la poste, c'est la riposte.
Bon,
on envoie un peu de musique pour Lely sur Kaleidoscope.
Un petit copain turc qui s'appelle Erkin Koray, et je vous fais une présentation après. C'est la chanson normalement Estarabin.
Gezdim, neler gördüm görmedim. Çok memleketler gezdim, neler gördüm görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Böyle bir yar istemem, istesem de istemem. Böyle bir yar istemem, istesem de istemem. Güller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Güller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Ağım, 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 ağım.
Il est intéressant. J'avais un disque de lui. Je l'ai retrouvé à la bibliothèque municipale. Une belle compile. Et il est né dans les années 40. Il a introduit le rock en Turquie et dans toute l'Asie mineure. Et puis après, dans les années 70, il a glissé vers des influences un peu psychédéliques qui sont sympas. Et tout ça en mélangeant avec la musique traditionnelle de l'Empire ottoman. Donc c'est assez sympa. Et on te retrouvera plus tard dans l'émission.
Ça, c'est cool. Et c'est donc toujours Kalidoscope, l'émission qui revient sur l'actu culturel de la quinzaine à Montauban. Et vous nous retrouvez un mardi sur deux à 19h et un dimanche sur deux à 21h sur les ondes de CFM. On enchaîne rapidement pour finir cette émission avec un petit retour donc sur les fameux sentiers sculpturels.
Yep.
Je fais la liaison pour que les gens comprennent bien.
J'avais promis d'y aller, j'y suis allé, c'est vrai, c'était sympa, c'était les 20 ans, bien arrosé par la météo et par les vignerons.
Tu nous rappelles un peu le concept?
Le contexte, c'est en fait depuis 20 ans une association hérésie vers Méronne, donc au niveau des Hautes-Corbières, qui met en place un sentier ou qui propose à des artistes de pouvoir mettre en place des installations. Mmh. Alors, ce qui était chouette, là, c'est que c'était le jour du vernissage et il y avait des artistes aussi. Donc, j'ai pu me rapprocher de certains et comprendre un peu comment ça marche. Et en fait.
Est-ce qu'il y avait des artistes féminines?
Alors, voilà. Ça, je me suis amusé à regarder aussi. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, parce que je me suis dit depuis
trop longtemps, il y a que des mecs.
Trop longtemps, il y a que des mecs en fait. Il y a pratiquement que des mecs. Donc les sculptures, il y en avait à peu près sur le point des sculptures, hein, il y en a à peu près 38 sur le parcours et il y a 22 sculpteurs hommes et 7 sculptrices, comment on dit,
sculptrices,
voilà.
Oui.
Et donc
Camille Codel,
c'est pas battu pour rien, mais ce qui était bien là sur cette rencontre là, c'était que finalement il y a un vrai dialogue entre les artistes qui vont poser et l'équipe qui organise, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord trouver un endroit qui leur parle, et puis à partir de là il y aura une rencontre entre un endroit du sentier et une œuvre.
Le sentier fait combien de kilomètres?
Alors, le sentier, il est sympa, t'as une petite boucle et une grande boucle, t'en as une que tu fais en 2 heures à peu près.
Oui, la petite.
Et la petite en 1 heure.
D'accord.
Et on était sous la pluie, honnêtement, sur la montée, et pas dérangeant. Après, ce qui était chouette, c'était qu'ils s'amusent. Même, alors je vous avais raconté la dernière fois, il y a des œuvres permanentes qu'on peut retrouver.
Oui, oui, ça vous pouvez l'écouter sur le podcast.
Le podcast, bien sûr.
De l'émission numéro 13 de Kalidoscope.
Il y a à peu près 16 sculpteurs qui sont là en permanence, mais de toute façon, d'une édition à l'autre, les sculptures changent de place. L'idée que t'as beau refaire le truc, t'es toujours un peu dépaysé. C'est toujours une rencontre entre la magie de la rencontre entre l'art et la culture, quoi. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui quand ils voient une sculpture à un autre endroit, ils ont l'impression
de l'avoir vu à nouveau. Et en plus, j'imagine que ça joue avec la nature qui pousse différemment. Enfin,
exactement.
Il y a des interactions.
Enfin, moi qui ai beaucoup voyagé, à chaque fois que je passe devant l'île de Pâques, je suis toujours stupéfait. Je reconnais pas les
totems. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à les déplacer.
Passe quoi tous les 200, 300 ans, mais
ouais, ça suffit à créer une trouble. Hein,
ouais, c'est ça.
Trouble.
Je comprends tout à fait l'émotion que tu as pu ressentir sur ce sentier.
Et puis après, ce qui est vraiment cool, moi je vous invite, alors parce que il y avait des producteurs qui servaient du vin, donc il y a un super vin qu'on a goûté, ça s'appelle la Jument Rousse. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir votre caviste, vous demandez à goûter la Jument Rousse. C'était super.
C'est un Corbière.
Ouais, super, oui. Bon vin, honnêtement. Et puis l'intérêt, c'était qu'il y avait le dialogue avec ces artistes, donc qui expliquaient un peu leur façon de faire, le pourquoi du comment, et ils proposent des choses toute l'année. Donc vite fait, pour que vous le sachiez, il y a des ateliers d'écriture, marcher, sentir, écrire. T'as aussi des mecs qui vont mixer du son dans le sentier, dans la garrigue. Il y a des découvertes de plantes médicales et comestibles, et puis des musiques et danses improvisées par l'association Arzigote, c'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui s'inspire des statues pour faire des chorégraphies et qui les délivre en live.
Yes.
Donc je vous invite à vous intéresser à tout ça, et vous téléphonez à l'association, vous le retrouverez sur le podcast et tout ça, mais
je vous le redonne.
Chantier de Méronne, hérésie.
Chantier
de Méronne au 04 68 43 12 37, à faire et à refaire avec des copains ou...
Merci. Elysiane voulait nous inviter.
Oui, je voulais vous inviter quelque part.
Oui, à Montauban peut-être.
Ah oui, à Montauban. Donc on parlait du salon du livre jeunesse.
Tout à fait, qui a lieu cette semaine.
Sur le thème maison et château. Donc ça a lieu depuis plusieurs semaines, mais ce week-end du 17 et 18 mai,
cœur du festival à Eurythmie. Ouais. Vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer l'équipe du fanzine Le Petit Tout.
Voilà, et l'équipe de Kaleidoscope.
Allez les voir.
Voilà, et moi j'ai peut-être un petit film à aller vous, enfin que je vais aller voir jeudi 15 mai aux Augustins. Ça s'appelle L'alchimiste du potiron. Donc c'est sur une artiste qui sculpte les potirons et qui les laisse pousser dans son potager.
Ah bah cool.
J'avais déjà raté la projection du film à Bruniquel, donc je vais aller aux Augustins jeudi.
Et voilà, donc on conclut cette émission. On remercie Lisiane et Paul-Eli pour...
Et Mister Tigre.
Et merci de toutes ces découvertes à Montauban et dans le secteur. Dans 15 jours, on se retrouvera, on parlera un peu de presse subventionnée. Voilà, parce qu'on a appris que le monde diplomatique était en dilettante.
Et tout ça,
voilà, pouvait disparaître d'un moment à l'autre parce qu'ils n'étaient justement pas trop subventionnés alors qu'ils apportaient de l'information différente. En attendant, voilà,
on se quitte avec Zuleya, toujours monsieur Erkin Koray.
Yeah, à bientôt.